Mais je vois que le temps passe et je vais, si ça continue, je ne vais même pas pouvoir arriver à parler du premier des cinq dernières voitures. Donc, j'arrête et je passe directement à l'Opus 127. Alors, un mot très rapide, vous l'avez entendu, donc juste un mot très rapide sur la structure qui est apparemment classique. C'est une forme, une architecture de sonate en quatre mouvements, avec un mouvement de forme sonate, des variations sublimes, un scherzo et un mouvement de forme sonate aussi. Alors, je ne vais pas en parler en détail. Disons qu'en gros, je vous disais, du point de vue expressif, ce quatuor, j'ai mis tout en haut lyrisme et joie. C'est le lyrisme de la joie, d'un bout à l'autre, avec toutes sortes de joies. La joie effusive dans le premier mouvement, une joie méditative dans le second, le lyrisme du jeu dans le troisième, la danse et la fête dans le final. Alors, au point de vue formel, maintenant, ce qui est tout à fait nouveau par rapport à l'équateur classique et même au Razumovsky, c'est l'importance tout à fait singulière que Beethoven va donner aux introductions d'une part. Certes, vous me direz, il y en a déjà dans le 9e quatuor, le 10e, et ce n'est pas négligeable. Mais elles n'ont pas les mêmes fonctions, comme vous le verrez, parce que dans le 9e et le 10e quatuor, le 9e, il y a une introduction tout à fait indépendante de ce qui suit. Dans le 10e, il y a déjà une petite corrélation. Mais à partir des derniers quatuors, l'introduction va faire partie intégrante du mouvement de l'œuvre et va agir, réagir, interférer avec le discours qui suit. Donc, chaque fois, il y a une introduction et surtout une immense coda. Et alors, des codas qui, chaque fois, ont une fonction expressive bien, bien particulière. Ici, j'ai noté transcendance. Je suis désolé, j'ai eu beau chercher cette nuit, je n'ai pas trouvé de qualificatif qui puisse rendre compte de l'esprit de la coda du mouvement lent. Mais vous me le direz, puisque vous avez tous entendu ce quatuor il y a deux jours. Avec le scherzo, c'est une coda dans le sens du dérèglement, de la déconstruction. Il y a un jeu, et puis ce jeu se détraque. Et dans le final, on l'a vu, c'est la transfiguration des textures. On est dans une sorte d'exubérance, de musique festive, et puis tout soudain, on passe dans un univers de textures buissonnantes, de lumière impressionniste. Donc, c'est une véritable transfiguration. Donc ça, voilà, en gros, l'esprit du 12e quatuor. Mais ce sur quoi je voulais insister aujourd'hui, j'en ai un petit peu parlé hier, parce que je pense que vraiment, c'est une innovation extrêmement forte de Beethoven, c'est l'organisation de son premier mouvement à partir de cette fameuse introduction maestoso. Alors, j'espère que ce schéma ne vous fait pas trop peur, mais je vais vous l'expliquer rapidement. Alors, une forme sonate, en principe, c'est une exposition bithématique. Alors, les deux thèmes, c'est ici A et B. Un développement où le compositeur travaille sur chacun des deux thèmes. Donc, ici, j'ai mis F comme une fonction mathématique, mais... Alors, je m'excuse, parce que c'est un peu plus compliqué. A et B, c'est des deux thèmes. Et puis, c'est ce qu'on appelle le groupe terminal. Alors, ça existe déjà chez Haydn, peu importe. Mais en tout cas, Beethoven, dans son développement, travaille sur le premier et le troisième thème. Et puis, après le développement, ici, il y a ce qu'on appelle une réexposition. Et ensuite, mais ça a surtout été inventé par Beethoven. Il y en a très peu chez Mozart. Parfois, il y en a, notamment dans le quatuor La Chasse, mais ce n'est pas vraiment une marque de fabrique. Chez Beethoven, la coda, c'est absolument fondamental. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle souvent un développement terminal, tellement ça prend d'importance. C'est-à-dire que c'est une deuxième fonction de développement, comme celle-là. Donc, ici, vous avez, de manière générale, une coda qui est un développement sur le premier thème. Mais ça, ce n'est pas très singulier. Ce qui est vraiment singulier, c'est que la fameuse introduction maestoso, qui est représentée en rouge ici, va revenir un certain nombre de fois, de manière variée. J'ai appelé les fameux maestoso M1, M2, M3, et puis il se passe quelque chose d'étonnant ici. Il n'y a pas de maestoso M4, mais on l'attend. Et Beethoven procède à ce que j'appellerais une ellipse, et on est tout à fait dans un univers stendhalien. J'ai rencontré un auditeur stendhalien hier, je ne sais pas s'il est là, mais en tout cas, j'espère que ça lui fera plaisir de savoir que Beethoven a inventé les ellipses stendhaliennes. Vous savez, vous avez eu le rouge et le noir, et bien, quand la première fois que Julien Sorel monte dans la chambre de Madame de Rênal, on s'attend à une description croustillante, pas du tout, il y a des points de suspension et on passe au lendemain. Et bien, ça, c'est un peu pareil. Alors, maintenant, on va entrer enfin dans le fil du sujet, c'est-à-dire l'audition. Alors, L'audition, pour vous donner le paysage général, je vais vous faire écouter très rapidement les deux thèmes A et B, qui en principe sont des thèmes contrastifs, mais qui là ne contrastent pas tellement. Il y en a un qui est du lyrisme effusif, l'autre qui est un peu plus sombre, mélancolique, mais il n'y a pas une opposition comme il peut y en avoir dans d'autres œuvres de Beethoven que vous avez entendues. Alors, on commence par ça. Deuxième thème. Voilà. Alors, maintenant, avant de vous faire goûter l'exemple suivant, qu'est-ce que je voulais vous dire ? J'ai oublié. Et pourtant, c'est très important. Ah oui, oui, voilà. Je reviens une seconde, si je le retrouve, à mon transparent précédent, parce que la chose tout à fait neuve et qui va influencer des compositeurs comme Schoenberg dans son Quatuor Opus 7, notamment, c'est le fait que on pourrait s'attendre, un compositeur moins inventif que Beethoven aurait placé les maestoso aux charnières de l'articulation du discours de la forme sonate. Donc, c'est d'ailleurs le cas pour le premier. Le premier maestoso arrive juste au début du développement. Mais il n'y en a pas au moment de la réexposition. C'est bizarre, il l'a mis au milieu du développement. Et puis, celui qui devrait arriver avec la coda, eh bien, il l'a éludé. Donc, en fait, c'est tout à fait étonnant. Mais d'autre part, ce qui est étonnant aussi, c'est la manière de construire un discours sur trois pattes. Généralement, la forme sonate, c'est deux thèmes. Enfin, il y a ce petit MC, mais globalement, il y a deux groupes thématiques A et B. Et là, Beethoven va créer un rapport, va créer une forme hiérarchisée où la forme sonate joue avec une autre forme. En fait, il y a un mélange de forme sonate et de variation. Parce que ce qui va se passer, c'est que ce maestoso, Beethoven ne va pas se contenter de le répéter, il va à chaque fois le changer. Mais le changement ne sera pas seulement un changement formel, ce sera une ascension. Et on sent cette espèce d'idéal, de verticalité qui imprègne Beethoven, qui est toujours attiré vers le haut et vers la grandeur. Et son maestoso commence dans les graves, va monter d'une octave ici, monte ici, vous voyez, pas tout à fait, pardon, d'une tierce, ici elle va encore un petit peu monter, et là, il s'arrange pour qu'on pense qu'il monte encore, c'est-à-dire qu'entre ce maestoso-là et celui-là, on aurait eu une octave, même plus d'une octave, on serait passé de mi bémol 3, mi bémol du médium, à sol 5, un sol assez aigu. Donc, vous voyez, un cheminement de ces maestoso, et qui chaque fois, vous le verrez, ont plus d'ampleur. Donc, c'est aussi ça qui est tout à fait étonnant, c'est à la fois la désarticulation de la forme pour la restructurer selon un autre principe et surprendre l'auditeur parce que justement les maestoso n'arrivent pas là où on les attend, et d'autre part, cette ellipse terminale. Alors, je vais vous donner, on va enchaîner les exemples, je vais essayer de vous faire passer la musique. Alors, je vous montre comme toujours un exemple musical, mais que ceux qui ne savent pas lire la musique ne s'inquiètent pas, ça n'a aucune importance. Il ne s'agit pas de notes, il s'agit de structures. Donc je vous montre simplement ici ce qui se passe, le fameux maestoso là, qui lui-même a un mouvement ascensionnel, et puis il va déboucher sur une chose très importante dans ce quatuor dont je n'ai pas parlé, qui est une sorte de pseudo-trille, une note qui se répète, et qui va être en fait une figure, une figure intégrative pour l'ensemble du quatuor. Et sachant que vous avez entendu à la fin le fameux trille qui permet de passer à la coda du final, eh bien, ce trille de plus en plus va envahir le discours musical jusqu'à devenir la figure emblématique du quatuor. Mais Beethoven l'annonce déjà ici. Alors, après ce premier trille, on entendra, vous réentendrez, ce fameux premier thème, noté teneramente, tendrement, ce fameux premier thème qui est un thème d'effusion lyrique. Alors, après ça, je passerai des autres transparents, donc vous verrez comment Beethoven amène pour la deuxième fois le deuxième maestoso après, à la fin de l'exposition, comment il arrive au milieu du développement, et puis on s'arrêtera peut-être avant la fameuse ellipse dont je parlais. Donc je laisse s'enchaîner, pour gagner du temps, les différents exemples, et je vais vous montrer. Silence, écoutez bien. Deuxième messe de jour. Alors là, on se retrouve dans le contexte du développement, donc à la fin, après le passage de la dernière fois. Voilà, j'arrête une seconde parce que ça va un peu vite pour moi quand même. J'arrive pas à suivre. Et je voulais vous dire une chose. Et alors, ah oui, sur ce, vous avez remarqué que chaque fois que le maestro revient, il est plus haut, d'une part, et qu'il est plus massif. Il y a plus d'accords, donc il y a plus de sons. Ça se renforce. Et puis, la première fois qu'il revient, Beethoven fait une procédure d'approche que je vous montre, parce qu'on va la retrouver juste avant la fameuse ellipse. Alors vous voyez, là, vous avez des petits motifs. C'est justement ça qui est le fameux thème C dont je parlais tout à l'heure, qui est mystérieux. C'est les procédures d'approche du maestoso, avec des cris, là, vous voyez, un silence, et puis là, un tri à nouveau, et on repart sur le maestoso. Et alors voilà ce qui va se passer maintenant. Mais là, je suis désolé parce que le transparent est très pâle, mais vous allez voir les grands blocs. Donc, on va avoir la même procédure d'approche. Et puis, après ce silence, transfiguration, vous avez encore le tri, là, avec une modulation. Et on entre dans un tout autre univers. Et c'est cette fameuse coda transfiguration dont je parlais. Et transfiguration est le mot propre. Et je disais tout à l'heure, il n'y a pas de rapport avec la mise de sol et de Nice. Eh bien, là, on pourrait peut-être en voir un. Parce qu'il s'agit d'une véritable musique litanique. C'est-à-dire que vous allez entendre, et vous, ici en rouge, désigné en rouge, qui est en fait la partie terminale du thème, du premier mouvement. Alors vous allez entendre et c'est comme une litanie absolument incroyable. Répétitive, et au-dessus de cette litanie, en vert, là, mais vous ne voyez pas les notes, mais peu importe, le violon plane et énonce une mélodie absolument séraphique. Et ça, c'est une des pages les plus sublimes de Beethoven, mais d'une grande simplicité, mais il faut l'avoir remarqué une fois pour ensuite éprouver l'émotion qu'elle doit procurer. Cela dit, et c'est vrai aussi pour le maestoso, tout ça, c'est beaucoup une question de tempo et de volonté expressive, parce qu'on peut avoir une autre intentionnalité expressive par rapport à ça, comme je le disais hier. Moi, je vous donne ma position par rapport à ça. Je dis, c'est écrit comme ça, on peut y voir ça, mais on peut y voir aussi autre chose. Moi, c'est comme ça que je l'entends, que j'aime l'entendre. Et notamment les maestosos, vous avez entendu cette espèce de puissance sonore, de lenteur, de majesté, de profondeur. Jamais le quatuor à cordes n'a sonné de manière aussi profonde, aussi intense qu'avec ces grands accords extrêmement longs et grâce auxquels la patte de son devient vraiment extrêmement onctueuse, compacte, profonde. Alors, maintenant, après ce beau discours, passons justement à cette fin merveilleuse qui est tout sauf compacte et qui est extrêmement légère et du haut spiritualité.